L'Osservatore Romano est avant tout un canal de diffusion entre le siège de Pierre et les églises locales. Nous publions dans l'Osservatore Romano tous les actes et documents du souverain pontife et du Saint-Siège. Mais nous publions, par voie de réciprocité, je dirais, des textes ou des réflexions d'évêques d'église locale. Immédiatement me vient à l'esprit le continent africain. Le pape lance régulièrement des appels pour l'Afrique. Et le rôle de l'Osservatore Romano est aussi de répondre, montrer que l'appel du pape est entendu, que les églises locales travaillent elles aussi au bien-être des populations.
Depuis quand l'édition en langue française existe ?
Depuis 1945. C'était le vœu du pape Pie XII de toucher les fidèles, les catholiques, dans leur langue vernaculaire. Et son substitut de l'époque, Monseigneur Montini, qui deviendra Paul VI, avait été chargé de mettre sur pied l'Osservatore Romano en une langue étrangère, je dirais. Et le français avait été choisi du fait des colonies françaises à l'époque. Le premier Osservatore Romano, celui qui fait foi en fait, et l'Osservatore Romano italien qui, lui, est né en 1863 et qui n'a cessé de paraître jusqu'à nos jours.
Parlons un peu de la mise en page et de la rotative, etc. Jusqu'à il y a finalement quelques années, jusqu'à récemment, l'imprimerie se faisait au plomb.
On y a travaillé jusqu'en 1991, date à laquelle nous sommes passés sur ordinateur. Le changement fut grand. Je crois que c'était le dernier journal au monde avec la Pravda à être publié au plomb. Cela nous posait beaucoup, beaucoup de problèmes, car pour corriger une virgule sur une ligne, par exemple, il nous fallait refaire toute une colonne d'un journal.
Quelles étaient les particularités de l'imprimerie au plomb pour l'Osservatore Romano ?
L'Osservatore Romano, en travaillant au plomb, avait la possibilité de publier des textes dans toutes les langues. Et si je ne me trompe pas, c'était l'unique imprimerie au monde à pouvoir publier des textes dans des langues complètement inconnues. Et c'est ce qui en faisait un peu son originalité. La polyglotte vaticane, d'où son nom de polyglotte vaticane, était une imprimerie de grande renommée dans le monde.
Votre fonction, on la connaît, donc vous êtes à la tête de la section française de l'Osservatore Romano. Ça consiste en quoi exactement ?
Je crois surtout que c'est la fidélité à la parole du pape qui est la chose la plus importante. Et au magistère du pape, dont on participe en fait. Et je crois que ça représente pour nous qui travaillons ici une des plus grandes valeurs. On vit ici de grands moments, je pense, puisque d'ici, du Saint-Siège de Rome, on a une vision du monde qui est extrêmement large, à 360 degrés, et elle est universelle. Les papes ont ajouté quelque chose en plus, c'est de faire remonter l'information vers eux aussi. On observe, mais on écoute. En définitive, notre travail, c'est pas autre chose que se mettre dans les pas du pape et prolonger son enseignement.
La traduction d'Osservatore Romano comme observateur romain n'est pas exacte. Alors quelle serait la traduction et pourquoi ce nom ?
En 1863, il avait été décidé de l'appeler l'observateur romain justement parce que c'était un point de vue romain. Aujourd'hui, je l'appellerai la voix du pape.
Comme Radio Vatican alors ?
Exactement.